Alors, tournons ensemble dans Colossiens. Nous sommes dans la fin. Nous avons vu qu'il y avait 8 compagnons. Nous avons passé à travers certains de ces compagnons-là. On a passé à travers Onésime, Aristarque, Marc. Donc, on est rendu à Justus, Jésus, ou Jésus-Justus, il nous appelle. Il nous reste Épaphras, Luc, Démas et Archip. Colossiens 4, verset 11. Alors, après ça, tout de suite, après Barnabas, il dit, « Jésus appelé Justus vous salue, ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. » On l'a touché un petit peu, parce que je vous ai parlé la semaine passée des circoncis, le seul parmi les circoncis. Je vous en ai touché un mot la semaine passée. On ne sait pas grand-chose sur Jésus, sauf que Jésus appelé Justus. Pourquoi, d'après vous, il s'appelle Justus? Mais pourquoi il change de nom? Moi, j'aimerais pas ça que mes parents m'aient appelé Jésus. C'est un nom qui est quand même lourd de responsabilité. Ben, lourd à porter. C'est un honneur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et je pense que il a préféré s'appeler Jésus, mais regardez la signification, il s'appelle. Ça, c'est juste mon interprétation personnelle. On jase, là. Il s'appelle Jésus. Et Jésus l'a rendu juste. Jésus, Justus. Juste, je sais pas, moi je trouve ça cute. C'est même pas M. MacArthur qui a écrit ça, ok? Là, c'est moi qui l'ai dit. Donc, on sait pas grand-chose de lui, hein? Ok? Et M. MacArthur, il dit probablement que c'est un juif romain converti au christianisme. Un juif, un circoncis romain, parce que c'est comme moi, je suis un Français canadien. Okay, parce que je suis né en France, comme lui, il est juif, mais je suis ici et je suis naturalisé canadien, donc je suis canadien. Quand je suis ici, on me dit que je suis un Français. Quand je suis en France, on me dit que je suis un petit Canadien! C'est ça, en plein ça. Alors, du nombre des circoncis convertis, c'est un compatriote juif. Ça console Paul. Pourquoi? Parce qu'il est en prison? Non. Non, pas encore là. Pas dans ce voyage-là.
Parce qu'il y a un juif comme lui aussi.
Il est juif, lui. OK? Et il y a un juif converti. Parmi les quelques juifs, les circoncis convertis. Et ça, ça le console. C'est comme chacun de nous qui sont de pays étrangers, quand Christine rencontre ou un Français ou un Grec converti, ça la console. OK? C'est pareil quand on rencontre, même si je suis arrivé ici à 5 ans, je rencontre un Français converti, ça nous console. Parce qu'on dit, il y a d'autres de mes origines qui sont convertis. Et il y a d'autres Juifs, et ils parlent de Aristarque et Marc, qu'on a parlé un petit peu la semaine passée. Donc, il y a 3 Juifs, et ça, c'est une consolation pour lui. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Épaphras. Très beau nom. On va faire Épaphras, Luc, Démas et Archip. Alors, Épaphras est le fondateur de l'église de Colosse. Probablement, au moment où Paul écrit à Colosse, à l'église de Colosse, probablement le pasteur de l'église, le berger qui prend soin de l'église, que vous l'appeliez ancien pasteur responsable, berger, évêque, y a-t-il d'autres noms encore? On voit que ces noms-là s'entrecroisent dans la parole de Dieu, là. C'est ça que Épaphras faisait, probablement, à Colosse. Alors, Épaphras, et non Barnabas, fondateur de l'église de Colosse, il va à Rome pour informer Paul. C'est lui qui va à Rome voir Paul pour l'informer de l'hérésie ou de la fausse doctrine ou des fausses doctrines. Pas qu'il y a dans l'église de Colosse, mais qui menace l'église de Colosse. L'église de Colosse ne vit pas cette fausse doctrine dans l'église. C'est vrai et c'est pas vrai. Quand il y a une fausse doctrine, même si elle n'est pas implantée dans l'église, elle touche. Exemple, je sais pas si vous lisez le journal sur ordinateur ou quoi, là, mais il est sorti hier un autre article dans le journal de Québec concernant un pasteur Claude Guillot. Je peux dire le nom maintenant parce que il est poursuivi en cours. Mais son nom est sorti dans les journaux, c'est pour moi qu'il sort, là. Un pasteur baptiste, c'est ça, qui est poursuivi pour violence, harcèlement, abus de toutes sortes. Vous pourrez lire ce journal, c'est dans le Journal de Québec d'hier. Et l'association, notre association, est mise en question parce que cet homme-là a été directeur d'une école il y a quarantaine d'années, 30-40 ans, à Victoriaville, dans l'église baptiste évangélique de Victoriaville, qui l'ont mis à la porte. Il s'est retrouvé dans l'église de Chauveau à Québec, qui l'ont mis à la porte. Ça, c'était dans les années 80, avant que beaucoup de scandales éclatent, qu'on fasse la DPJ et tous ces cossins-là, là, qui font, qui protègent aujourd'hui les personnes vulnérables. Ça touche l'église, tout ça. Le nom de Gilles Lapierre est là, de Gabriel Cotenoir, de Terry Cuthbert, des noms de Michel Habib, de nos leaders, de notre fellowship, de notre association régionale. Alors, même si c'est pas dans l'église de Rosemont, ça touche. Parce que nous sommes associés, parce que nous sommes une église baptiste, Évangéliste de Rosemont, avec un pasteur baptiste, nous sommes associés avec cet énergumène-là. Ce qui fait comme quoi que quand on a des cas de discipline dans l'église, c'est plat. Ça, c'est comme quand on a des enfants. Vous savez, on doit corriger nos enfants. Tu sais, on rentre nos enfants. Ben, écoute, là, t'écoutes pas, tu veux pas obéir, là. 3-4 caloches sur les foufounes, etc. C'est pas agréable, ça. Okay? Ni pour papa. Même si je disais ça à mes enfants, je disais, tu sais, c'est pas facile pour papa, mais on fait ça parce qu'on t'aime. Sur le coup, ils ne comprenaient pas bien, mais tu m'aimes d'une autre manière, mais enfin. C'est la même chose. La discipline dans l'Église est nécessaire pour la protection du nom de Jésus-Christ, premièrement, la protection de l'Église en général, et pour que cette personne-là soit incitée à la repentance. C'est ça, la discipline. Quand elle n'est pas bien faite, quand elle n'est pas bien exercée, on a des problèmes par la suite. Et beaucoup de divisions dans les églises sont faites, arrivent suite à une mauvaise discipline. Mais une pomme pourrie dans d'autres pommes, qu'est-ce que ça fait? Fait pourrir les autres pommes. Vous allez pas dire à tout le monde que j'ai dit que les chrétiens qui sont disciplinés, c'est des pommes pourries, là. Alors, c'est la même chose. Mise en garde que Épaphras va voir Paul pour avoir des conseils. Il dit, écoute, Paul, j'ai telle difficulté à Colosse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'en penses? Et ça, c'est important. Les conseils. Dans les différentes églises où je travaille dans notre association, là, quand on a des difficultés, la pire chose qui peut arriver, c'est que je me retrouve tout seul. Bon, j'ai des idées, tu sais, qu'on devrait faire ça, comme ça, comme ça. Mais rien de tel d'en parler avec quelqu'un d'autre ou deux autres personnes, puis là, on en discute. Qu'est-ce que t'en penses? Puis deux têtes, ça vaut mieux qu'une. Puis trois, c'est encore mieux. Je parle pas de 25, là, mais vous savez, juste, puis on sait que... Oui, t'as raison pour ça, oui, oui. Parce que lui, il pense, ah oui, mais ça va nous donner ça. Il risque ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. Priez pour ça. Donc, c'est pour ça que notre ami Épaphras va voir Paul à cause de l'hérésie qui menace l'église de Colosse, hein, et les églises de la vallée. Donc, ça comprend toutes les églises. Qu'est-ce qu'il y a d'autres églises dans la vallée? Laodicée et Hiérapolis à côté. Là. On voit ça, il y a d'autres églises là. Même, il y a des églises dans des maisons. On va voir ça un peu plus tard. Donc, c'est un serviteur de Jésus-Christ. C'est un des vôtres. Hein? Quand il dit, Paul, il dit, Épaphras, l'un des vôtres. Donc, c'est un gars de Colosse. Hein? Un des vôtres. Okay? Qui habite à Rosemont ici? Anita est un des vôtres de Rosemont. Nous tous, on vient à l'église de Rosemont, mais on habite à grandeur la ville de Montréal et moi à 8 kilomètres de la frontière américaine, à 68 kilomètres de chez nous. Je dis pas que c'est le meilleur. Je vous encourage fortement à vous approcher. Mais ça, c'est personnel. Un des vôtres, il vous salue et il ne cesse de combattre. Pas juste prier, il ne cesse de combattre dans la prière. Pourquoi il y a une signification dans combattre?
C'est un effort.
Un effort, oui.
Une arme. Une intercession.
Mais quand on dit, il aurait pu marquer, il ne cesse de prier pour vous. On a des ennemis, il faut combattre. Le premier ennemi qu'on a, oui, c'est Satan. Mais nous-mêmes, et tout. Si vous êtes aussi courageux que moi, vous savez, je vais rester, au lieu d'aller prier 15 minutes ce matin, je vais piquer un somme de plus de 15 minutes. Il faut faire attention à ça. On est un ennemi, nous-mêmes. La chair, est mauvaise conseillère. C'est sur Satan. Et il y a un combat parce que Satan ne veut pas qu'on prie. Car il sait que nous allons aller puiser toute la force, la sagesse dans la prière, les réponses dans la prière, la connaissance dans la prière. Et quand on s'approche dans la prière, on reconnaît que nous sommes Pécheur, faible,
dépendant de Dieu.
Dans la prière, quand on vient demander conseil, Seigneur, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais là? Je reconnais que je suis dépendant, que sans Dieu, je ne peux rien faire et que c'est lui qui va être capable de guérir les blessures, travailler dans les cœurs, nous tirer les oreilles. Moi, je vous vois, vous avez tous des beaux sourires, des belles dents, des beaux yeux, mais je suis limité à ça, moi. Mais Dieu voit au cœur, puis il dit que ça pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle. Ça va jusqu'au fond. Est-ce que ça fait mal, des fois? Oui. Mais zinc, ça fait mal. Ça graffigne, hein? Mais ça, c'est le Seigneur qui peut le faire pour moi. Donc, lui, combat dans la prière. Le mot « combattre » dans le texte original, ça veut dire « agoniser ». De ce mot-là, on fait « agoniser ». Il agonise dans la prière. À quel exemple on peut voir d'agonir dans la prière? Jésus. Hein? Alors, c'est intéressant. Jésus agonisait dans la prière avant d'être livré ou trahi par Judas, avant d'être livré puis crucifié. Bon. Est-ce que Jésus avait besoin d'agoniser ou de combattre dans la prière? OK. Il y a quelques-uns qui disent non. Qui dit oui? OK. Daniel, vu que tu parles le plus fort, pourquoi oui?
Parce qu'il y a.
Bon, c'est correct. Je n'irai pas plus loin. C'est vrai. C'est oui et non. Comme Dieu lui-même, non. Mais comme Jésus-Christ, homme, oui. Jésus a toujours été 100% homme, sans péché. Et si tu avais été à la place de Jésus, qui est 100% homme, mais 100% Dieu, puis qui sait ce qui l'attend, qui sait qu'il va porter tous mes péchés puis tous les tiens sur le dos, qui va être séparé de son Père, traduction littérale, il y avait la chienne. Il voyait tout ce qui l'attendait. Et même si c'est un film dur, La Passion, je vous encourage à le voir. Pas pour aller voir le film de Monsieur un tel, pas pour aller voir tel comédien, mais c'est dur. Puis beaucoup de gens quittent. Je trouve que c'est un petit peu spécial. Les gens vont voir des films avec des meurtres longs comme le bras pendant 2 heures, puis là, ils trouvent ça dur. Mais c'est dur, mais ça nous rapproche la compréhension. Jésus a consenti volontairement, comme un agneau muet, sans dire un mot, sans lever le petit doigt pour rayer ceux-là de la map, par amour pour toi, par amour pour moi. Ça, c'est combattre, l'agoniser dans la prière. Donc, ça, c'est notre ami Epaphras, il agonise dans la prière. Et ça, c'est un modèle de ce que Paul nous disait dans Colossiens chapitre 2, qui disait « persévérer dans la prière ». Donc, il est un modèle, notre ami Epaphras. Et que prie Epaphras? Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à Martin de lire dans la traduction sommaire, parce que quand on lit, je vais le lire d'abord dans la seconde 1910, là. Alors, verset 11, Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je vais demander à Martin de nous lire le verset 12 dans la sommaire.
Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu.
OK. C'est plus facile à comprendre comme des adultes, que vous teniez bon comme des adultes, persévérants, etc., plutôt que parfaits et pleinement persuadés. Intéressant de voir qu'est-ce qu'il prie. Il prie, il dit, afin que vous teniez bon. Est-ce que nous avons besoin que des frères, des sœurs prient pour nous?
Oui.
Définitivement. Est-ce qu'on passe par des temps difficiles? Est-ce que lorsqu'on passe par des temps difficiles, on est les meilleurs juges de la situation?
Non.
Non. Pas tout le temps. Hein? Comme je dis, j'ai pas de tableau ici, l'illustration que j'utilise souvent. J'ai un grand tableau, aujourd'hui ils sont blancs, mais dans mon temps ils étaient noirs, après ils sont devenus verts, puis là ils sont rendus blancs maintenant. Puis je fais un gros point dans un coin, qu'est-ce que vous allez regarder sur le tableau?
Le point.
C'est la même chose. Pourtant, tout le reste du tableau va bien, il n'y a pas de point. C'est la même chose quand on passe par une difficulté, on la voit comme ça, là, drette devant nous autres. Mais tout le reste est là aussi, puis tout va bien le reste. Mais on voit juste la difficulté. Ça, c'est comme quand vous frappez le pouce avec le marteau sur le côté. J'ai jamais oublié cette douleur-là. J'ai eu bien des accidents dans ma vie. Mais celui-là, à quoi on pense à ce moment-là? À mon pouce. OK? La douleur de mon pouce, pourtant tout le reste va bien. C'est la même chose quand on passe par des temps difficiles. On n'est pas nécessairement les bons juges dans la situation quand on passe par un temps difficile. Mais quand les frères et les sœurs prient pour nous, on a des conseillers, puis on a le Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous dit « Oh, Dominique, attends, attends. Ne prends pas une décision maintenant. » Exact. Ne prends pas une décision maintenant. J'ai pris des mauvaises décisions quand je les ai prises maintenant. Et vous savez, ça coûte cher des fois ces mauvaises décisions-là, on les paye longtemps. Prie afin que les chrétiens de Colosse tiennent bon. Fasse à la persécution, aux difficultés, mais tiennent bon face aussi aux mauvaises doctrines, à l'hérésie. Tiens bon. Ne te laisse pas emporter avec des mauvaises doctrines. T'es pas sûr? Quelqu'un te partage quelque chose? Un instant, je vais aller chercher un frère ou une sœur qui a plus de maturité, plus de connaissances. Un ancien, un des pasteurs, on va jaser de ça ensemble. Souvent, quand quelqu'un vous amène une doctrine qui a l'air un peu louche, puis tu lui dis, ben, on va jaser, je vais inviter mon pasteur à prendre un café. Qu'est-ce qui va arriver? Cette personne-là, là, va tout d'un coup, là, mal au ventre ou elle a un rendez-vous urgent. Attention. Attention. Et aussi, attention dans la parole de Dieu à ce que nous ne comprenons pas. OK? Ce qui est intéressant, c'est que je remarque dans ma vie, il y a des choses que je comprenais pas à 30 ans, que j'ai compris à 60 ans. OK? Et il a fallu attendre 30 ans. Et j'ai compris certaines choses dans ma vie, dans, wow, c'est probablement ça que le Seigneur va nous dire. N'interprétons pas la parole de Dieu hors contexte. Or, la Bible s'explique par elle-même. Exact. Ne sortons pas un verset hors contexte pour en faire une doctrine, comme l'Église catholique a fait avec la papauté de Pierre. En plus, s'il l'avait pris dans le texte original, il n'aurait pas pu dire ça. C'est parce qu'en français, tu es Pierre, OK, l'apôtre Pierre, et sur cette pierre, mais ce n'est pas les mêmes mots, ça. Si moi, j'avais voulu dire, tu es Dominique, et sur Dominique m'a bâti mon église, j'aurais employé le même mot, mais ce n'est pas les mêmes mots. Donc, c'est intéressant de voir. Et là, il en a sorti toute une doctrine. Puis là, on met des bouquins là-dessus. Là, c'est comme ça qu'on connaissent les fausses doctrines. Attention. Donc, lui est un homme qui prie pour que les chrétiens persévèrent, tiennent bon, comme des adultes. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on suppose, on présuppose qu'un adulte tient bon. Okay? On présuppose qu'un adulte tient bon. Donc, nous, les adultes, dans la foi, on doit prendre soin des enfants dans la foi. Alors, des enfants dans la foi, je ne parle pas des vrais enfants. Là. On peut avoir 60 ans et être un enfant dans la foi. Donc, c'est à nous, les adultes, qui devrions avoir de la maturité, je dis bien devrions, conditionnel, on devrait prendre soin des enfants dans la foi. Pourquoi je dis « devrions » C'est parce qu'il y a des adultes, ça fait 40 ans qu'ils sont sauvés, mais ça fait 40 ans qu'ils sont en première année. Et ils n'avancent pas, ne progressent pas, ne prennent pas de la maturité. Est-ce que c'est des adultes? Ils ont de l'air d'un adulte, ça fait 40 ans, mais ils sont encore en première année. Ils n'ont pas réglé des choses. Le Seigneur leur dit « je veux tel péché dans ta vie », puis on y donne pas. On lui dit « ça, c'est mon bébé à moi ». On appelle ça une idole secrète. Hein? Ça, il y a juste Dieu qui le sait. Parce que nous, on voit pas dans les cœurs. OK. Donc, les adultes. C'est bon d'avoir lu dans la persévérance d'un adulte. Mûr entièrement développé. Ça, c'est l'explication de M. MacArthur. Mûr entièrement développé. Et il prie pour qu'ils aient une entière soumission à la volonté de Dieu. Wow! Je vous pose la question, mais je ne veux pas de réponse. puis je me la pose à moi en même temps. Avons-nous une entière soumission à la volonté de Dieu? Si j'étais dans une classe d'ado, là, ouais, mais comment je vais savoir la volonté de Dieu?
En lisant la Bible.
En lisant la parole de Dieu. Dieu nous parle, et si nous accomplissons tout ce qui est écrit là-dedans, comme M. Spurgeon dit, tout ce que je comprends, si je le mets en pratique, j'aurai pas assez d'une vie. J'aurai pas besoin de me tracasser avec ce que je comprends pas. Commençons par mettre en pratique, à suivre ce que le Seigneur nous dit, et nous accomplirons sa volonté. Et il nous en montrera un peu plus. Est-ce que la volonté ou la révélation de Dieu est complète? Très important, ce sujet-là. Est-ce que la révélation de Dieu est complète?
Oui.
Oui, j'ai vu un oui, puis j'ai vu un non. Oui, la révélation est complète. La révélation et l'avenir, c'est deux choses différentes. La révélation, ce que Dieu veut qu'on sache, est complet. Ce que Dieu a à accomplir n'est pas encore accompli, mais sa révélation est complète. Nous ne sommes pas du temps d'Israël où Dieu parlait par les prophètes. Dieu parle par qui maintenant? Par le Fils. Alors maintenant, est-ce que Dieu nous parle? Combien qui disent oui? Levez la main. OK, combien qui disent non? OK, oui, Dieu nous parle. Pourquoi? Son esprit vit en nous, mais son esprit ne viendra pas ajouter à la révélation. Comprenez-vous la différence? Il va me parler à moi, Dominique, non, tu sais, je veux acheter une maison à 1 250 000, puis j'ai 10 000 piastres comme cash. Et puis là, le Saint-Esprit me dit, Dominique, t'es dans le champ, là. Hein? Là, tu te mets les pieds dans... Hein? Bon. Le Saint-Esprit nous parle. Certains gens vont dire « ma conscience me parle ». Si je fais confiance à ma conscience, des grands bouts...
Intellectuel.
Ah, c'est ça. C'est très bien. J'y fais dire pas mal ce que je veux à ma conscience. Mais je ne fais pas dire au Saint-Esprit ce que je veux. Il me dit ce qu'il veut. Et quand il me dit, il nous raisonne. Il est notre intelligence. Le problème, c'est que je ne l'écoute pas tout le temps. Ou je le mets dans un tiroir, puis je dis tais-toi, puis là, j'entends juste du parce que je l'ai mis dans le tiroir. Comprenez ce que je veux dire? Donc, Dieu nous parle personnellement, mais il n'ajoute pas à sa révélation. Bon, ça, c'est notre ami Epaphras. Donc, il a une grande sollicitude pour les Colossiens. Il a une grande sollicitude pour ceux de la Odyssée. Et il a une grande sollicitude pour Hierapolis. Qu'est-ce que ça veut dire, une sollicitude? La compassion, on veut le bien de quelqu'un. Martin, qu'est-ce qui est écrit pour le mot sollicitude? As-tu le verset 13 dans la Semeur?
Je lui rends ce témoignage qu'il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de l'industrie de Hierapolis.
Il se dépense beaucoup pour vous. Il est prêt, il fait des efforts, il travaille pour vous, il combat pour vous. Il a votre intérêt à cœur et il se dépense beaucoup pour vous. Sollicitude, c'est ça que ça veut dire, la sollicitude. Luc, le médecin personnel de Paul. Nous, on a de la difficulté à avoir un médecin familial, mais Paul a un médecin personnel. Ma femme et moi, on a une bénédiction depuis une douzaine d'années, 15 ans. On a un médecin de famille. Elle nous soignait à distance, gratos, parce qu'elle pouvait pas passer la carte. Elle m'a envoyé les papiers, va faire prise de sang, je veux savoir ta pression, ça. Elle recevait, elle renvoyait la prescription directement à la pharmacie. La sollicitude. Un médecin personnel. Mais Paul a un médecin plus personnel. Faut dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet et compagnie, là. Mais Luc était dans la grande majorité des voyages de Paul. Pourquoi? Il est devenu un disciple, il était un ami de Paul. Mais pourquoi le médecin personnel de Paul suivait Paul? Parce que Paul était malade. Qu'est-ce que Paul a prié à un moment donné à Dieu? J'ai prié plusieurs fois s'il est possible que cet écharpe s'éloigne de moi. Et Dieu lui a répondu, pantoute, tu vas rester comme ça. Ma force te suffit, car dans la faiblesse sera ta force. Et Dieu a pourvu un homme qui s'appelle Luc, à Paul. Donc, est-ce que ça veut dire que le Seigneur va répondre à toutes nos prières?
Il répond à toutes, pas de la façon qu'on veut.
Exact. Il va répondre. Dieu ne répond pas comme on veut, mais il va nous donner la force et les capacités de faire ce qu'il veut qu'on fasse comme on est. Et moi, je peux vous le dire, il le fait. Il le fait. Je suis un homme handicapé depuis 43 ans, puis personne ne le sait. Et le Seigneur nous a toujours accompagnés. Pour commencer, il m'a donné une femme qui m'emmène à l'hôpital en ambulance. Assez, ben, pas régulièrement, mais bon, 5-6 fois en 43 ans, c'est quand même assez vite. Dieu va répondre, mais comme lui, il veut, et pas comme nous, on veut. Il dit, ma force te suffit, tu vas me glorifier dans
la faiblesse.
Et nous sommes tous faibles. Et ça, on doit bien le comprendre. Donc, Luc, le médecin personnel de Paul, un ami intime, d'origine païenne, on pourrait voir ça dans d'autres passages, il accompagne fréquemment, dans la majorité des voyages de missionnaires de Paul, Luc est là, il est instruit et cultivé comme Paul. Alors, les discussions entre Paul et Luc ne sont pas les discussions de Paul et de quelqu'un qui allait à la pêche, comme Jean, comme Pierre, comme André. Comprenez ce que je veux dire? Car Luc est un homme cultivé comme Paul. Alors, j'ai rien contre les gens ordinaires, je suis un gars ordinaire. Hein? Pas de diplôme de séminaire en théologie, notre ami Luc. Pas de diplôme en théologie d'un séminaire. C'est un spécialiste de la santé et c'est l'exemple typique d'un missionnaire spécialiste. On a des missionnaires à travers le monde, médecins. On a des missionnaires à travers le monde, mécaniciens. On a des pilotes d'avion. Ils sont spécialistes. Pas nécessairement en théologie, mais ils sont des missionnaires. Et dans certains pays, on ne peut rentrer que comme ça. Beaucoup de missionnaires qu'on ne connaît pas, car ils restent anonymes pour ne pas se faire pogner. Dans certains pays, ils travaillent comme enseignants, professeurs d'anglais, médecins, mécaniciens. Dès qu'on a su, dès qu'on sait qu'il est missionnaire, on le met dehors. C'est comme ça qu'on peut rentrer et on prêche l'Évangile tranquillement. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Le prix d'une âme a un prix. Le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est important, le prix d'une âme. Ça, c'est notre ami Luc. C'est aussi un homme important. C'est un écrivain qui a écrit un des évangiles, l'évangile de Luc, et les Actes des Apôtres. Intéressant de voir qu'ils disent que le meilleur langage qui est écrit, le mieux écrit, si on veut dire, dans un certain sens, c'est ce qui a été écrit par Luc. Parce que c'est un homme cultivé. Oui, c'est un homme cultivé. Donc, il écrit bien. Mais même Luc... Son évangile, c'est le seul évangile de quelqu'un qui n'a pas été un témoin oculaire. Il a été un contemporain, mais pas un témoin oculaire. Et il témoigne, lui, en recherchant des témoins oculaires, et il ramène tout ça. Donc, il a une approche très crédible au niveau de ceux qui ne croient pas en Christ. Lui, il est un témoin très crédible. Et ensuite, qu'est-ce qu'il écrit en écrivant les Actes des Apôtres? C'est quoi les Actes des Apôtres? L'histoire de l'Église. Ça devrait être appelé bien plus les Actes de l'Église que les Actes des Apôtres. Mais c'est le début de l'Église. Est-ce que c'est important la manière dont Dieu a instauré l'Église? Définitivement. Démas vous salue. Alors lui, Démas, c'est l'ombre du groupe de ces hommes-là. Démas est avec Paul lors de ses deux emprisonnements. Mais c'est triste parce qu'il arrive quelque chose de grave avec Démas. 2 Timothée, chapitre 4, versets 9 et 10. Et là, c'est bien entendu, c'est Paul qui écrit à Timothée.
Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Christ allé en Galatie.
OK. Dans la traduction que Tom Martin. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. »
Car Démas m'a abandonné, il a aimé le monde présent.
Il a aimé le monde. Nous sommes tous tentés par le monde. On est dans une période d'achat de Noël. Enfin, aujourd'hui, on n'emploie plus achat de Noël, on dirait achat des fêtes. Noël, on ne mentionne plus. Nous aussi, on peut être attirés par tout... Le matérialisme du monde. Attention, le monde est intéressant. Le péché est tentant depuis Adam et Ève. Et Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Donc, si ça peut arriver à Jésus avec Judas, Démas avec Paul, est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Définitivement. Ne nous décourageons pas parce que nous voyons tel ou tel frère ou telle sœur, et je le nomme frère et sœur, abandonner la foi, devenir un apostat, quelqu'un qui renie la foi. C'est pas à nous de savoir s'il est sauvé ou pas, ça, ça appartient à Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation comme ça? On essaie de le ramener, et nous, on doit persévérer. N'oublions pas, les probabilités que nous réussissions à l'amener dépendent de nous?
Non.
Pas en tout. Ça dépend du Seigneur. Mais vous savez, la discipline produit le retour à Christ. Vous irez demander à certains dans l'Église qui, eux, ont passé par un abandon de la foi pendant 4, 5, 6, 7 ans et finalement n'ont pas pu résister encore plus longtemps et sont venus demander pardon. Ont demandé pardon au Seigneur premièrement à l'Église et ont regagné la famille. C'est exactement l'histoire du fils prodigue. Il a sacré son camp, il a dit à son père, « Cœur-moi plus, là, je m'en vais. » Jusqu'à un certain point, voler son père, dilapider, gaspiller tout l'héritage qu'il avait, mais son père l'attendait qu'il revienne. Il savait très bien, quand tu auras tout mangé son foin, il va falloir qu'il revienne. Et il est revenu, parce que là, il a compris des choses. Des fois, un enfant, un de nos enfants, et ou un enfant de Dieu, a besoin d'être jusqu'au fond du baril. La rébellion complète. Quand il y a réellement là qu'il est dans le bourbier, comme l'enfant prodigue, là, il dit, écoute bien, ça n'a pas d'allure. Puis là, il dit, OK, je vais revenir. Donc, il faut aller jusque-là. Alors, Démas a abandonné par amour pour les plaisirs du monde. Alors, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Alors, moi, j'ai fait une petite réécriture là-dessus. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église de quartier qui est dans sa maison. Qu'on l'appelle l'Église dans sa maison, l'Église maison, l'Église de quartier, la cellule. Il y a toutes sortes de noms qu'on appelle ça, la bergerie. Ça date pas d'aujourd'hui qu'on a des églises de quartier, des cellules dans les maisons. C'est seulement comme ça que dans certains pays, ils réussissent à se réunir. Ça crée une intimité. Ça fait du bien. On peut partager, quand on est 3, 4, 5, 6, 7, des choses beaucoup plus personnelles. Je ne vais pas raconter à tout le monde, écoute, que je lutte avec tel péché dans ma vie. C'est pas édifiant pour l'Église. Puis écoute, on n'aime pas étaler son péché devant tout le monde. Mais quand on commence, j'écoute, j'ai tel péché dans ma vie, je pense que c'est ça qu'on appelle la confession. Là, je confesse devant des frères et des sœurs, tel péché dans ma vie, veux-tu prier pour moi?
Avant qu'on fasse une telle chose, il faut qu'il y ait un lien vraiment fort entre les frères et les sœurs.
Donc, c'est pour ça que je nous encourage à aller dans une petite église de quartier, afin qu'on puisse prier les uns pour les autres, développer des liens, et là, on peut prier ensemble. Et ça reste là. On se confie. C'est intéressant parce que je sais que mes frères et sœurs ont prié pour moi. Et ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Puis en plus, ben, le Seigneur, il l'entend aussi. Hein? Donc, l'Église dans la maison ici. Et là, il envoie une lettre. Alors, verset 16. « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » La lettre envoyée à Colosse, arrangez-vous pour la lire, il faut qu'elle soit lue à Laodicée et vous, vous lirez la lettre de Laodicée. Wow! Quelle lettre de Laodicée! Il y a plusieurs débats sur la lettre des Laodicéens, que c'est une lettre que Paul a envoyée aux Laodicéens ou c'est une lettre des Laodicéens, un des deux. Mais on ne le sait pas. Certains disent c'est peut-être une lettre apocryphe. Qu'est-ce que ça veut dire, apocryphe? Les lettres apocryphes, ce sont des lettres qui ne sont pas reconnues dans ce qu'on appelle le canon, dans ce que la Bible que nous avons présentement. Attention, si vous avez une Bible avec l'imprimatur catholique du pape, les apocryphes sont dedans. Pas toutes les apocryphes, mais beaucoup. Mais le canon qui est reconnu, là, est complet, là, il n'y a pas les apocryphes. Pourquoi il n'y a pas les apocryphes? Et la raison principale pourquoi tous ces livres-là ont été rejetés, c'est parce qu'ils sont remplis de contradictions entre eux, dans le même livre, et surtout avec les autres livres de la parole de Dieu. Mais ils sont retenus, certains sont retenus comme des livres avec une histoire, parce qu'ils datent généralement à peu près 200 à 350 ans après Jésus-Christ, ces livres-là, à peu près. Oui, Daniel?
Si
Surtout parce qu'ils ne reconnaissent pas une inspiration qui vient de Dieu.
Définitivement.
Parce que quand ça vient de Dieu, c'est une révélation.
Définitivement. Les livres de la Genèse à l'Apocalypse sont reconnus comme étant inspirés de Dieu, non les apocryphes. Mais ils se soutiennent les uns les autres. Le Nouveau Testament explique l'Ancien. L'Ancien Testament prédit le Nouveau, présente le Nouveau, ainsi de suite. Tandis que les apocryphes, il y a tout ça, il y en a qui ont des noms spéciaux, un Maccabée, deux Maccabées, mais en tout cas, c'est spécial. Est-ce qu'on devrait lire les apocryphes? Je vous pose la question.
Ben oui.
Alors, si on les lit par curiosité, on doit les lire avec un regard
critique.
Oui, ce n'est pas la parole de Dieu. Et vous allez le voir très bien en le lisant. Ça expose la gloire beaucoup des hommes là-dedans. Oui, Martin.
Une plus grande connaissance de la Bible pour pouvoir lire.
Oui, définitivement. Il faut être beaucoup mieux assis bibliquement. Ça peut donner de la confusion, Martin, c'est pour ça.
Paul nous appelle à éprouver les esprits, puis retenir ce qui est bon.
Oui. Mais attention, je pense qu'il y a d'autres livres avant, beaucoup de loin meilleurs que les apocryphes. Exact, je remplace ça. Commençons par lire la Bible, c'est ça. Alors, je reviens avec notre lettre des Laodicéens. Ce que beaucoup de commentateurs pensent, que c'est une lettre authentique qui peut être perdue, ou comme M. MacArthur pense, car dans de vieux manuscrits, les anciens, les plus anciens manuscrits, il fait allusion à la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 1:1 dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, ça ne serait pas écrit « qui sont à Éphèse ». Ça serait écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et aux fidèles en Jésus-Christ ». Et c'est la seule place, c'est marqué à Éphèse. Donc, cette lettre-là serait une lettre circulaire et pour Éphèse, et pour Laodicée, et pour Colosse, et pour nous autres. Ça, c'est ce que certains commentaires disent. Officiellement, la lettre aux Laodicéens, nous ne l'avons pas. Officiellement. Est-ce que c'est Éphésien? J'en sais rien. Mais si nous aurions dû l'avoir, on l'aurait eu. Et voilà.
C'est comme Corinthiens, il y a une troisième lettre qu'on n'a jamais connue.
Exact. De toute façon, quand on lit Corinthiens, il y a des choses là-dedans qu'on a... La parole de Dieu est toujours édifiante, mais il y a des cas là-dedans, là, ça fait dur. Hein? Peut-être que quand il est arrivé avec la troisième lettre, il était en train de blaster l'église de Corinthe, là. Dieu a jugé que c'était peut-être pas pour nous autres, c'était peut-être pour Corinthe. Le péché n'est pas édifiant. C'est comme quand on a des cas de discipline à l'église de Rosemont, on discipline telle personne... Nous ne mentionnons pas le cas de le péché, à part de rares exceptions. Parce que c'est pas édifiant, ça. Votre péché, mon péché, ça n'édifie pas. Donc, ça, c'est pour la fameuse lettre des Laodicéens. Archip n'est mentionné qu'ici. Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Archip n'est mentionné que deux fois dans le Nouveau Testament, soit là, et dans Philémon chapitre 2. Mais Paul lui dit, prends garde, fais attention, watch tes claques au ministère que le Seigneur t'a donné. Est-ce qu'il a une raison de dire ça? Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à l'oreille de Paul, que notre ami Archip prenait trop de congés, était pas assez fidèle à son ministère. On le sait pas, mais c'est mentionné juste là. C'est tout ce qu'on sait d'Archip. Il s'inquiète d'Archip. Fais bien ton travail. Mais il y a une recommandation un peu similaire que Paul fait à Timothée quand il lui dit de bien prêcher la parole en tout temps, attache-toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il touche à des choses qui sont peut-être des faiblesses chez Timothée. Nous sommes, chacun de nous, il y a des choses qu'on aime faire. Okay? Vous êtes d'accord? Il y a des choses qu'on aime faire. Et généralement, on préfère faire les choses qu'on aime faire. Puis ceux qu'on n'aime pas faire, on les met en bas de la liste. Puis comme par hasard, on n'arrive jamais en bas de la liste. Malheureusement, on devrait les mettre en haut de la liste. On les fait, fini. Le seul reproche dans ces 8 bonhommes-là, c'est Démas. C'est juste des... Mais quoi qu'il ne le fait pas, le reproche-là, nous, on l'a fait parce qu'on sait qu'un peu plus loin, il va abandonner Timothée. Donc, je vous salue de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. C'est la seule place où il parle. Souvenez-vous de moi, oubliez-moi pas. Priez pour moi. C'est ça qu'il dit. Mais il dit, je vous salue de ma propre main. Écoute bien, là. Quand j'écris mon nom, moi, j'ai signé en bas d'une lettre, c'est parce que je l'ai écrit de ma main, généralement, ou bien de l'ordinateur, mais en tout cas, c'est moi qui l'ai fait. On comprend? Donc, c'est ça qui nous termine notre livre aux Colossiens. J'espère qu'on en tire des bonnes leçons. Et une des leçons qu'on peut tirer de Colossiens, avec ça, on va terminer. Attention aux fausses doctrines qu'il y a dans notre monde, et je dis dans notre monde évangélique large, il y a de fausses doctrines. Faisons attention. Faisons attention aussi à nous-mêmes dans l'Église. On est important pour tous les autres chrétiens autour de nous. Ils ont besoin de nous, comme nous, on a besoin d'eux. Et ça, je vous encourage à avoir des petits groupes. Ces quatre couples-là, on a au moins un de nos enfants qui est loin du Seigneur. On va prier pour nos enfants. Et nous sommes, pour nos enfants qui sont éloignés ou qui ne connaissent pas le Seigneur du tout, nous sommes un phare pour eux autres. Puis vous remarquerez ça, quand ils sont dans les problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir le phare. Ils appellent papa, ils appellent maman. Et nous sommes un phare. Et un phare, ça éclaire surtout durant les jours de nuit et de tempête. Hein? Alors, les enfants, des fois, quand il n'y a pas de tempête, ils nous
oublient.
Ils nous oublient. Je dis pas ça pour les jeunes. Mais nous, on fait la même chose. C'est ça. On a fait la même chose, un, avec nos parents, et on fait la même chose avec le Seigneur. Hein? Quel que soit ce qui va nous arriver dans la vie, quel péché va nous arriver, quelle agression va nous arriver de l'extérieur, ce n'est pas Dieu. Et on va le voir dans Jacques, ça. Dieu ne peut pas tenter.
OK? Ce
n'est pas lui qui est l'initiateur de la tentation ni du péché, c'est Satan. Donc les problèmes, tout ce qui va arriver, les tuiles qui vont nous tomber sur la tête, ne viennent pas de Dieu. OK? Mais Dieu va nous donner la force de passer au travers, il va nous porter. Hein? C'est comme ce qu'on a déjà vu sur une photo déjà, une trace de pas sur la plage. Là. Hein? Ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, c'est Dieu qui nous porte sur la plage. C'est lui, c'est ses traces de pas qu'on voit. Terminons par la prière.